Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, la presse et le devoir. Au programme, ceux qui se baignent tout nus. Service de soutien qui sera aboli au CSSDM. Et il ne faut pas confondre éparpillement et diversification. Bonne écoute.
Ceux qui se baignent tout nus. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. C'est lorsque la marée se retire qu'on voit ceux qui se baignent tout nus. Cette citation cocasse du célèbre investisseur américain Warren Buffett trouve tout son sens à la lumière de la déconfiture de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et de Crédit Suisse en Europe ces derniers jours. Voilà un premier avertissement de l'effet brutal que peut avoir une remontée éclair des taux d'intérêt, comme celle qui a fait éclater la bulle des technos en 2000 et qui a déclenché la crise du crédit en 2008. Voilà qu'il faut à nouveau sortir les bouées de sauvetage pour rescaper les banques qui ont pris trop de risques durant la pandémie, alors qu'emprunter ne coûtait rien et que tout le monde nageait dans l'argent. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, car on célèbre le premier anniversaire du début du resserrement des taux d'intérêt qui met généralement de 12 à 18 mois avant de faire effet. Alors, qui sera le prochain à boire la tasse? Rassurez-vous, les banques canadiennes ont des assises solides. On peut lever notre chapeau à nos régulateurs, notamment le bureau du surintendant des institutions financières, qui a toujours tenu leur bride serrée. C'est ce qui a permis au Canada de traverser la crise de 2008 avec moins d'égratignures que d'autres pays. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri pour autant. Le Canada a ses vulnérabilités. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil du côté des hypothèques. Allez-y! C'était le mot d'ordre du gouverneur de la Banque du Canada au début de la pandémie, qui a envoyé un signal sans équivoque en affirmant que les taux d'intérêt resteraient bas très longtemps. Erreur! Les Canadiens l'ont écouté. Comment les blâmer? Ils ont acheté des maisons en optant en grand nombre pour une hypothèque à taux variable. Ils ne voyaient pas le danger, surtout que les trois quarts de ces hypothèques ont des paiements fixes. Cela fait en sorte que la mensualité ne bouge pas lorsque les taux montent. Il y a simplement une plus grande portion du remboursement qui sert à payer les intérêts plutôt qu'à rembourser le capital. Mais quand les taux d'intérêt grimpent trop, il arrive un point où le paiement mensuel n'est plus suffisant pour couvrir les intérêts. Aujourd'hui, 73 % de ces hypothèques ont atteint le point de rupture, si l'on se fie à une évaluation de la Banque du Canada. Conséquence? Certains prêteurs forcent leurs clients à augmenter leurs paiements, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. D'autres banques permettent un amortissement négatif qui augmente le solde d'un mois à l'autre et étire la période nécessaire pour rembourser le prêt. Autrement dit, on pèlete par en avant. Mais gare au prochain renouvellement. Il ne faudra pas s'étonner de voir des mensualités bondir de 1 500 à 2 500. Ce ne sera pas facile à avaler pour les ménages qui voient les paiements grimper, alors que la valeur des maisons a connu un repli historique de 11 % au Canada depuis le sommet de mai 2022, selon l'indice Terranet Banque nationale. Pour l'instant, les ménages tiennent bon. Ils continuent à dépenser grâce aux coussins d'épargne accumulés durant la pandémie. À la fin de 2022, les Canadiens avaient encore 350 milliards d'économies de plus qu'avant la COVID-19, selon la BDC. Mais surtout, les ménages tiennent le coup parce qu'ils ont du boulot. Le taux de chômage est tout près d'un creux historique en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui sera bien difficile à inverser compte tenu de la démographie. Dans ce contexte, les banques centrales auront du mal à casser la spirale inflationniste qui s'est emparée des salaires et garde l'inflation élevée à 5,9 %. Pour ramener l'inflation à la cible de 2 %, les banques centrales pourraient devoir garder les taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'on le pense, ce qui n'est pas plus réjouissant. Bref, on est coincé entre deux feux, l'inflation et les taux d'intérêt. Tout cela se terminera-t-il fatalement en récession? Douce ou profonde? Les économistes s'obstinent là-dessus. Mais pendant ce temps, les inégalités s'accentuent. La hausse des taux d'intérêt fait particulièrement mal aux jeunes, alors que l'immobilier n'a jamais été aussi inaccessible depuis une génération. Et la hausse du coût de la vie frappe davantage les moins nantis, qui ne peuvent pas couper dans le gras. Ces fossés qui se creusent peuvent nous mener vers un climat social plus délétère, si on y prend garde. Plus que jamais, le mot d'ordre doit être « prudence ». Pour les gouvernements qui déposeront leur budget au cours des deux prochaines semaines, à Québec et à Ottawa. Mais aussi pour les entreprises et les ménages. Ce n'est pas le temps de prendre des risques. Déjà, les cas d'insolvabilité ont bondi de 33 % chez les consommateurs et de 55 % chez les entreprises en janvier au Canada. Au cours des prochains mois, on va découvrir ceux qui se baignent tout nus. C'était « Ceux qui se baignent tout nus », un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. Service de soutien qui sera aboli au CSSDM. L'expérience audacieuse qui a changé sa vie. Un texte de Marie-Ève Moras, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. Le Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, a récemment annoncé qu'il réorganise les services qu'il offre à certains enfants handicapés intégrés dans des classes dites régulières. Ce changement, qui touchera environ 250 élèves, a entraîné une levée de boucliers, tant chez les parents que chez les enseignants ou les directions d'école. Christian Généreux a été l'un des premiers jeunes à être intégré dans une classe régulière dans ce qui était à l'époque appelé la Commission des écoles catholiques de Montréal, CECM. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il fait des mandats de recherche comme travailleur autonome et songe à faire une deuxième maîtrise. La presse s'est entretenue avec lui par courriel. Parlez-nous de votre situation et des limitations que vous avez. J'ai une déficience motrice, la paralysie cérébrale. les principales conséquences sont des limitations à la marche, de coordination et de communication orale. J'utilise un iPhone ou un iPad avec un clavier pour pallier cela, mais avec le temps, les gens peuvent arriver à me comprendre sans aucune aide. Quel genre d'école avez-vous fréquenté dans votre parcours scolaire? J'ai commencé ma scolarisation à l'école Victor Doré, spécialisée en déficience physique. En 1976, c'était le cheminement normal pour les enfants ayant la paralysie cérébrale. En 1978, malgré une certaine peur de mes parents, on leur a offert que je fréquente l'école de mon quartier, étant donné mon potentiel. En deuxième année, je suis donc entrée à l'école Saint-François-Solano avec Tania, Sophie, Judith, Serge, Ghislain et Carl. Je serai donc un des premiers enfants du primaire ayant une déficience motrice à avoir intégré la classe ordinaire à la CECM. Si j'ai pu le faire et aujourd'hui avoir un diplôme de deuxième cycle universitaire, c'est incontestablement grâce à l'apport des profs itinérants. C'est ainsi qu'on les appelait à l'époque. Denise, André, Yvon ont été là pour appuyer mes profs dans une aventure qu'ils ne connaissaient pas, enseigner à un élève handicapé. Ils me soutenaient, notamment en me retirant de la classe pour que je puisse mieux assimiler la matière vue en classe. Ils m'ont aidé à utiliser des aides techniques. Il n'y a pas de doute, la présence de ces profs itinérants a facilité mon intégration à la classe ordinaire. Pouvez-vous me parler un peu de votre parcours universitaire? J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'UQAM en sciences politiques. Au baccalauréat, j'excellais en travaux pratiques, mais en examen, j'en arrachais, malgré les services palliatifs qui étaient en place. Prise de notes, temps supplémentaire pour l'examen, soutien à la mise en page des travaux. Je me suis inscrit à la maîtrise en 2011. Entre-temps, j'avais découvert de meilleurs outils pour pallier des difficultés d'attention ou de concentration liées à ma paralysie cérébrale, principalement la lecture en audio. Ma moyenne a été au-dessus de 4. J'ai eu quelques bourses d'excellence et j'ai adoré le bouillonnement intellectuel que sont les cycles supérieurs. Mon sujet a été l'interaction entre la communauté des personnes ayant des incapacités et le Congrès des États-Unis. Je l'ai choisi, d'une part, parce que je m'intéresse beaucoup à la société et à la politique américaine, et d'autre part, parce qu'ayant été assez impliqué au Québec dans les organismes pour les personnes ayant des incapacités, je voulais voir autre chose. La maîtrise m'a permis de faire 2 séjours de recherche, soit 3 mois à Washington et 2 semaines au Dole Institute of Politics au Kansas. Le CSSDM a annoncé que l'aide individuelle de quelques heures par semaine, offerte par des orthopédagogues à certains élèves handicapés, sera répartie différemment. Or, certains craignent que les élèves perdent de précieux services. Qu'en pensez-vous? Je suis convaincue que la présence d'orthopédagogues a été extrêmement bénéfique pour bon nombre d'élèves. En faisant disparaître ce service, on privera des enfants et des adolescents de services palliatifs à leurs déficiences. Je suis pragmatique. Je crois en ce qui fonctionne bien. Donc, en matière d'éducation, je suis de l'école où chaque élève doit avoir accès aux services qui sont le plus appropriés pour favoriser sa réussite scolaire, nous dit Christian. Par exemple, cela veut dire que Christian, qui a une déficience motrice, ait accès à une classe accessible, des équipements performants. Que Léa, qui a une déficience visuelle, puisse avoir tout le soutien nécessaire pour apprendre le braille. C'est donc avec ces éléments que je lis la décision du CSSDM d'abolir le service de soutien pédagogique à l'intégration, SSPI. Bien que j'aimerais voir d'autres moyens d'organisation scolaire, un financement qui suivrait l'élève, par exemple, le SSPI, était le plus près de ce à quoi j'adhère. L'approche que semblent favoriser les autorités éducatives québécoises en est une où l'on gère et dessine l'offre de services pour de grands ensembles. Par exemple, offrir un service à l'élève et non celui qui répond réellement à ses besoins. On parle d'intégration à la classe régulière et de classe spéciale. L'une est surchargée et l'autre est, depuis des décennies, l'antichambre vers rien, c'est-à-dire une sortie de l'école secondaire sans aucun diplôme. Est-ce que vous constatez néanmoins que les choses ont changé en matière d'inclusion des élèves handicapés dans les dernières décennies? Je pense qu'on a de meilleurs réflexes pour scolariser les enfants ayant des incapacités. Une preuve de cela est notamment le bond spectaculaire du nombre d'étudiants ayant des incapacités au cégep et à l'université. Cela veut dire qu'on les diagnostique mieux ou qu'on leur donne de meilleurs services au primaire et au secondaire. Mais je me demande si le changement est seulement positif. En 1978, l'administration et les profs de Victor Doré ont eu l'audace de vouloir m'intégrer à la classe ordinaire. Il me semble que l'audace de la décennie 1970 a fait place à une démission collective. Aujourd'hui, aurais-je de trop importantes limitations? Y aurait-il trop de services à organiser? Le contexte ferait-il en sorte que je passerais dans la même machine à saucisses que les autres EHDAA? Élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage. À cela, je n'ai pas de réponse. C'était « Service de soutien qui sera aboli au CSSDM. L'expérience audacieuse qui a changé sa vie. » Un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 18 mars 2023 dans La Presse.
Il ne faut pas confondre éparpillement et diversification. Un texte de Sandy Lachapelle, paru le 18 mars 2023 dans Le Devoir. La faillite de la Silicon Valley Bank, SVB, et les difficultés de Crédit Suisse ont causé bien des émois aux investisseurs. Prise avec la nécessité d'honorer un volume trop important de dépôts dans un contexte de faible rendement des obligations dans lesquelles elle a investi, la SVB a connu des problèmes de liquidité qui ont mené à sa fermeture. N'est-il pas surprenant d'ailleurs que des dirigeants si grassement payés n'aient pas anticipé de tels risques pour leur institution? Certes, cette débâcle s'explique en partie par une mauvaise lecture de la persistance de l'inflation que plusieurs ont cru temporaire pendant un certain temps et les mesures radicales requises pour l'atténuer. S'ajoute aussi, en complément, Le fait que cette banque, dotée d'une clientèle spécialisée dans les entreprises technologiques, a vu sa rentabilité directement affectée par la hausse des taux directeurs, ses propres investissements étant trop concentrés dans les obligations à long terme à taux fixe. Ces dernières années, j'ai observé de nombreux portefeuilles individuels fortement surpondérés en titres technologiques, américains notamment. Heureux des rendements, leurs propriétaires préféraient les savourer en faisant fi du principe de base qu'est la diversification dans la construction de portefeuilles. Il est facile de supposer que, pour certains, l'euphorie a fait place à quelques grandes déceptions dans les derniers mois, le cours des actions des entreprises de ce secteur ayant été frappé de plein fouet. À l'opposé, certains investisseurs affirment aspirer à cette fameuse diversification. Je ne souhaite pas mettre tous mes œufs dans le même panier, disent ceux-là, ce qui est très positif. Par contre, ces derniers mélangent parfois diversification et éparpillement. Par exemple, en ouvrant plusieurs petits comptes REER ou CELI dans différentes institutions, en travaillant avec deux ou trois conseillers en parallèle ou encore en conservant des cotisations dans un ancien régime de retraite à cotisation déterminée. Bien souvent, ces choix ne sont pas des clés de diversification, mais posent plutôt des défis supplémentaires pour analyser et suivre la composition du portefeuille dans son ensemble. Ainsi, il est tout à fait possible d'avoir quatre portefeuilles équilibrés dans quatre institutions différentes, gérées par des gestionnaires partageant une approche similaire et offrant une composition semblable. Cet exemple concret d'éparpillement n'apporte aucune plus-value. Un portefeuille diversifié, ça veut dire quoi? Les travaux de Harry Markowitz, prix Nobel d'économie en 1990, ont prouvé qu'un investisseur peut obtenir un meilleur rendement s'il détient un portefeuille bien diversifié, soit des titres ayant des niveaux de risque différents. Pour améliorer le rapport rendement-risque, il faut, explique l'économiste de l'Université de Californie, miser sur des valeurs ayant le moins de corrélation entre elles. La stratégie de diversification ne se résume donc pas uniquement à recourir à une composition incluant différentes catégories d'actifs comme les obligations et les actions. Pour y arriver, il faut aussi s'intéresser à la diversification des risques en leur sein. À titre d'exemple, le portefeuille obligataire devrait être réparti entre plusieurs émetteurs privés, gouvernementaux et locaux, tout comme les placements à taux fixe devraient présenter plusieurs échéances. La sélection des titres en action devrait impérativement être réalisée en misant sur différents secteurs d'activité industrielle, car, bien qu'ils soient tous affectés par le cycle économique, ils ne le sont pas de la même façon et avec la même intensité. Par ailleurs, la représentation des titres sur les différents marchés internationaux devrait être prise en considération. Dans l'idéal, les actions retenues présenteraient aussi des niveaux de risque différents afin de diminuer la volatilité du portefeuille. De nombreux indicateurs, comme l'écart type, le coefficient bêta et le ratio de Sharpe, permettent de faire cette analyse. Pour en finir avec l'éparpillement, si le fait de détenir plusieurs fonds semblables et parfois même des fonds identiques dans différentes institutions procure un faux sentiment de diversification des risques, la réflexion n'est pas la même s'il s'agit de produits garantis ou de comptes bancaires. Rappelons que vos dépôts de 100 000 $ par personne par institution sont protégés au Québec par le biais de l'Autorité des marchés financiers AMF et la Société d'assurance dépôt du Canada, SADC. Toutefois, en ce qui concerne votre portefeuille de placement, la philosophie devrait être tout autre, les placements boursiers et fonds d'investissement n'étant pas protégés par cette assurance. Le choix d'un seul conseiller ou d'une seule firme pour réaliser une analyse globale de vos placements vous permettra de potentiellement regrouper tous vos actifs, y compris vos actions dans des sociétés privées et vos investissements immobiliers. Le choix d'un représentant en épargne collective évoluant dans une firme indépendante ou de courtage en valeur mobilière facilite l'accès au courtage et aux conseils personnalisés. Il va sans dire que le choix de cet expert doit être envisagé dans une optique de relation à long terme. Il importera de vérifier ses compétences, bien sûr, mais aussi, plus intuitivement, ce choix devra s'appuyer sur sa capacité à communiquer de façon pédagogique et transparente et sur la confiance qu'il vous inspire. L'analyse intégrée de tous les actifs de votre portefeuille permettra, à titre illustratif, d'en vérifier le niveau de diversification actuel, de retenir des fonds dont le style de gestion, active ou passive, et le mandat croissance ou valeur, par exemple, se complètent et non se dédoublent. Plus concrètement, cette démarche vous permettra d'éviter que plusieurs titres boursiers se retrouvent dans tous les fonds que vous utilisez, par exemple. Vous pourrez ainsi voir plus clair quant à la volatilité de votre portefeuille et adapter celui-ci de façon simplifiée selon vos objectifs personnels et votre tolérance au risque. En somme, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier ne signifie pas que quatre conseillers doivent tenir le dit panier. Un expert compétent suffit pour aider à le transporter, en y ajoutant des titres et des fonds solides, permettant une construction sécuritaire de portefeuille et facilitant son rééquilibrage. C'était « Il ne faut pas confondre éparpillement et diversification », un texte de Sandy Lachapelle, paru le 18 mars 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.